Mesdames, messieurs, l'état de ma voix me contraint à être bref. Je veux cependant saluer les personnalités qui ont accepté de répondre à notre invitation et d'être présents, de nous faire honneur de leur présence. Nos vieux camarades, bien entendu, que nous retrouvons toujours avec émotion et tendresse. Les enseignants du lycée qui font l'effort important de nous écouter et de traduire devant les élèves un message que nous apprécions. Les élèves que nous retrouvons chaque année avec cette écoute particulièrement attentive et émouvante, y compris même avec les attentions qu'ils nous portent. Et puis, bien entendu, je veux saluer M. Pierre Truch, notre conférencier. Il vous parlera avec une compétence particulière, puisque il est en outre un juriste émérite, un humaniste éclairé. Et il vous parlera de cette tâche qui a marqué un siècle qui aurait pu être un siècle de haute civilisation et qui a été à l'origine d'une appellation contrôlée, le crime contre l'humanité. Je laisse la parole à Jean. Je parle de Jean Marinet que vous connaissez tous.
Je me dois de remercier les personnalités présentes ici qui manifestent leur intérêt pour nos activités, de façon assidue d'ailleurs, on les retrouve tous les ans. Monsieur Schengelia, le président de l'Union fédérale des anciens combattants. Monsieur Molinati, président de l'association du CD-ROM et des maquisards de Bellegarde, accompagné de monsieur Joseph Blazer, président départemental de l'UDAC. De la FNACA, pardon. Monsieur Foulet, président de l'UDAC. Robert Volant, qui est aussi un fuge, comme nous l'étions au lycée, Force Unie de la Jeunesse, mais pas lycéen, mais qui a fait la campagne avec les fuges, et qui est président de l'ANACRE. Le docteur François Guillain, à mes côtés, qui est membre de notre association, et qui est aussi président du CHRD de Lyon, le Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation à Lyon, et c'est lui qui nous a permis de faire appel au président Truch. Monsieur Sudriès, le proviseur du lycée Lalande, il faut quand même qu'on en parle, puisque tout notre accès qui se fait dans le lycée Lalande se fait sous son couvert, et sans lui, nous ne pourrions rien faire. Donc, je saisis l'occasion de le remercier. Quelques excuses. Rachel Mazur, sénateur président du Conseil général, on imagine qu'il est très occupé. Pour la mairie de Bourg, M. Lacroix, vice-président du Conseil général et maire adjoint chargé de la culture à Bourg et qui nous aide aussi énormément, M. l'inspecteur d'académie. Mme Desfillon, la directrice de l'ONAC, qui aujourd'hui a la visite du directeur général de l'ONAC, ça tombe assez mal pour nous. Elle nous soutient beaucoup, elle aussi. Madame Baume, directrice des archives départementales. Madame Vesbord, présidente de la maison d'Isieux. Monsieur Clermidi, président des anciens élèves du lycée Lalande, et qui s'intéresse énormément au travail que nous faisons à l'association des anciens élèves résistants. Madame Deville, Rose Deville, qui représente les femmes déportées, n'est pas en mesure de venir. Elle a une vue très, très mauvaise qui l'empêche de conduire. Elle le regrette beaucoup. Monsieur Perret, président des anciens fuges. Et puis Monsieur Martin, président de l'amicale Le Mitre à Ambérieu. Bon, je vais vous infliger mon petit discours introductif habituel, sous le couvert, je parle sous le couvert de notre président d'honneur, Paul Morin, qui est là, président d'honneur de notre association, pionnier de la résistance au lycée Lalande, ce qui lui a valu la déportation ensuite, Pierre Figuet, notre président actif, qui vient de vous parler. Merci à tous d'être venus en si grand nombre et mes excuses à ceux que j'aurais pu oublier de citer. L'association des anciens élèves résistants du lycée Lalande poursuit, vous le savez, depuis 1994, la tâche qu'elle s'est donnée, c'est-à-dire faire connaître à la jeunesse d'aujourd'hui les combats de la jeunesse d'alors, qui ont été menés durant les années noires, ses motivations, le contexte brutal dans lequel s'est forgée l'amitié qui nous unit encore, et l'espérance de voir, après la libération, une société nouvelle, plus juste et plus humaine, qui émergerait du chaos de la guerre et de son cortège de destruction, de tuerie, de cruauté et de négation des valeurs essentielles. Ce travail se fut d'abord par le moyen de l'édition, grâce au Conseil général d'ailleurs, d'un recueil de nos témoignages que nous avons abondamment distribués dans les établissements scolaires et que les jeunes ici, présents, peuvent consulter dans leur CDI. Est-ce que j'ai mis le bouquin ?
Ah ben c'est celui qu'on m'a donné.
Oui, c'est celui.
Ah ben ici, il n'a pas envie.
Non, c'est ça. Naturellement, nous avons fait cadeau de cet ouvrage à M. le procureur Truche. C'est un recueil de nos témoignages, de nos expériences vécues de l'époque. Ça n'est pas un roman, ni un ouvrage didactique, ce sont simplement nos témoignages. En outre, en collaboration étroite avec les professeurs d'histoire et de philosophie et sous le couvert du chef d'établissement, ce travail s'est défini et organisé chaque année à travers la grande conférence annuelle donnée par une personnalité éminente, aujourd'hui le professeur Truche, ainsi que par des rencontres entre les classes et les témoins et acteurs que nous sommes. D'ailleurs, de moins en moins nombreux, chaque année, selon l'inéductable loi de la nature. Le conférencier invité cette année est le président Truche, dont le nom est associé au procès Barbie, puisqu'il a été le procureur qui a requis en 1987 contre Klaus Barbie. Afin de vous le présenter plus précisément, j'ai puisé dans un texte émanant de M. Antoine Garapon, magistrat du siège, secrétaire général de l'Institut des hautes études pour la justice, qui est d'ailleurs un ami du président Truche. Je cite Antoine Garapon. Pierre Truche inspire naturellement l'autorité, peut-être parce que l'image terrible de l'avocat général est associée dans notre imaginaire à la violence de la justice. Et pourtant, ce procureur est non-violent. Il n'a jamais cessé d'appeler de ses vœux une autre justice non-violente et de développer la médiation pénale, notamment lorsqu'il se trouvait à la tête du parquet général de Paris. Cette justice convenue est d'autant plus forte qu'elle ne s'impose que par son autorité morale. C'est cette autorité naturelle qui a probablement permis à Pierre Truche de traverser aussi bien les réussites que les germes de tempête. Et Dieu sait s'ils sont fréquents dans le métier de procureur. Ni les responsabilités, ni les honneurs n'ont entamé sa bonhomie, sa jeunesse, sa liberté. La personnalité politique, ni les honneurs n'ont entaché sa bonhomie, sa jeunesse, sa liberté. La personnalité publique n'a pas abîmé l'homme. Sa recette peut être d'avoir appliqué à toute relation politique, médiatique ou internationale les mêmes principes que ceux qu'il s'est forgés à l'audience, refus de l'intrigue, goût du débat, force de la conviction. Né à Lyon en 1929, il est entré dans la magistrature en 1955. Il fut substitut successivement à Arras, Dijon et Lyon, puis après un passage de quelques années à l'École nationale de la magistrature, avocat général à Grenoble, procureur à Marseille, procureur général de la Cour d'appel de Lyon, puis de celle de Paris et de la Cour de cassation, avant d'être nommé premier président de la dite Cour de 1996 à 1999. Rappelons aussi que le président de la République lui confia en 97 la présidence de la commission de réflexion sur la justice et qu'il a aussi présidé le groupe de travail de l'ONU sur la création d'un tribunal pénal international pour juger les crimes commis dans l'ex-Yougoslavie. Fin de citation. Nous lui avons demandé d'intervenir sur l'évolution de la notion de crime contre l'humanité en s'appuyant sur le cas très concret du procès Barbie, un procès extraordinaire et dont il aime à rappeler qu'il doit se traiter à l'ordinaire, c'est-à-dire comme les autres. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais la qualité de notre conférence l'exigeait. Notre ami François Guillain, qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, président du CHRD de Lyon, va vous prononcer une petite allocution.
Très très peu de choses. Je ne veux pas laisser prendre du temps au procureur Truss qui va nous régaler tout à l'heure. Je dois vous dire que je l'ai entendu à deux reprises. De juillet 87, de mai 87 à juillet, il y a eu le procès Barbie. Le procès Barbie a été vraiment un événement judiciaire extraordinaire. J'ai eu la chance de suivre de nombreuses séances. Et je dois dire que cette période m'a marqué beaucoup. Pourquoi ? Parce que, pour deux choses. D'abord, on a parlé pour la première fois de crimes contre l'humanité, pour la première fois. Et d'autre part, nous avons eu la chance d'entendre des témoignages extrêmement émouvants d'anciens déportés, d'Israélites notamment, rescapés, de résistants déportés, arrêtés et déportés. Et tous ont apporté leur témoignage sur la barbarie de cette période du XXe siècle, que l'on croyait une ère de civilisation. Donc cela m'a marqué énormément et j'ai écouté le procureur Gérald Truss avec passion. Et puis, l'année dernière, c'était en octobre 2007, il y a eu à Lyon, on a organisé à Lyon, grâce au procureur Truss, un colloque sur justement les crimes contre l'humanité, bien sûr en se référant toujours au procès Barbie. À cette occasion, nous avons pu entendre non seulement des témoignages, mais aussi des interventions extrêmement importantes. Et je me souviendrai toujours de la conclusion du procureur Gérald Truss, qui en quelques mots a pu nous apporter vraiment l'impression que nous avions vécu à nouveau une période et quelques instants extraordinaires. Voilà, alors moi, ancien du lycée Lalande, bien sûr, ça fait un nombre d'années dont je ne vous parlerai pas, je suis encore beaucoup plus âgé que tous. Un de mes camarades, Jacques Payot, se trouve parmi nous, celui qui était dans ma classe, et je pense que à ce titre, je peux vous dire, je me réjouis de que vous entendiez monsieur le procureur général. Voilà, écoutez.
Je m'excuse auprès de François Guillain, je n'ai pas dit qu'il avait été le secrétaire et l'agent de liaison du général de l'Estrin et qu'il a écrit un remarquable volume sur la biographie du général de l'Estrin. Monsieur le procureur,
Merci, je vous remercie de l'occasion que vous me procurez de parler devant vous, devant des anciens résistants, des anciens du lycée Lalande et aussi devant des jeunes lycéens qui se trouvent et se trouveront confrontés à l'évolution du crime contre l'humanité. Cette évolution, on ne peut en juger qu'historiquement. Bien sûr, et vous le savez, les massacres d'Indiens, les massacres qui ont été commis, les déportations qui ont été commises dans le monde, il y en a depuis toujours. Ce qui est important quand on veut regarder d'où vient le crime contre l'humanité, c'est qu'il faut savoir qu'à un moment donné, en France, dans notre pays, certains crimes contre l'humanité étaient légaux. Ils étaient inscrits dans la loi. En 1685, Louis XIV va promulguer le code noir pour nos possessions dans les îles de l'Amérique. Et ce code noir va marquer, va faire entrer dans notre législation l'esclavage, qui est un crime contre l'humanité maintenant. C'était légal. Et il y a cet article 44 assez extraordinaire, attendu que les esclaves sont des meubles. Les juristes y distinguent trois catégories dans notre monde. La personne humaine, les immeubles et les meubles. Et la loi française, le code noir, disait que les esclaves étaient des meubles. C'est vous dire d'où on vient. D'où on est passé de la légalité à l'illégalité dans le crime contre l'humanité. Mais ce crime contre l'humanité a aussi une histoire au XIXe siècle. Et c'est ce qui précède le crime contre l'humanité. Beaucoup de guerres au XIXe siècle. On veut conquérir des possessions en Europe, étendre son pays, faire des alliances, se faire la guerre. Mais c'est ça qui est important. Les victimes de ces guerres sont, dans la très grande majorité, des militaires. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle maintenant des dégâts collatéraux, des civils qui vont mourir. Mais au XIXe siècle, ceux qui meurent, ce sont les militaires. Et il y a une date très importante dans cette histoire. C'est le 24 juin 1859. À Solferino, d'un côté 150 000 Russes, de l'autre 120 000 Français et Piémontais. Ils vont s'affronter et en une journée, j'ai dit Russie, c'est Autriche, en une journée resteront sur le terrain 22 000 Autrichiens et 17 000 Français et Piémontais. En une journée. Et c'est une date très importante. D'abord parce que c'est l'origine de la Croix-Rouge. C'est à la suite de Solferino qu'il a fallu prévoir une institution maintenant internationale pour porter secours aux victimes. Mais c'est aussi une date très importante parce que les empereurs, les chefs vont se mettre à réfléchir sur la guerre. Et sur la guerre, ils vont dire, en pensant notamment à ces militaires, ils vont dire, dans la guerre, l'important, c'est de mettre hors d'état de nuire le plus grand nombre de personnes. Mais il ne faut pas aggraver leur souffrance, parce que ce serait contraire aux lois de l'humanité. On parle déjà des lois de l'humanité. Et quand, à la fin du siècle et au début du XXe siècle, il va y avoir à La Haye, ce qu'on appelle les conventions de La Haye, le droit de la guerre, on reprend le même terme en disant qu'il faut veiller à ce qu'on ne porte pas atteinte aux lois de l'humanité. Les guerres ne vont pas s'arrêter. Elles ne sont toujours pas arrêtées aujourd'hui. Les guerres ne vont pas s'arrêter. Il y a la guerre de 14 et il y a une première idée qui fait son chemin après la fin de la guerre. Il faut punir ceux qui ont commis des crimes. Et notamment, il faut punir les chefs d'État. C'est pourquoi dans l'article du traité de Versailles, l'article 224, il est prévu qu'on doit traduire devant une juridiction internationale l'empereur d'Allemagne. Déjà une juridiction internationale est déjà un principe important. C'est les chefs qui sont responsables. Ce ne sont pas ceux qui tuent, même avec commettant des atrocités. Ceux-là, il faut les punir, mais il faut s'adresser aussi aux chefs, et ce sont eux les responsables. Cette juridiction internationale ne verra jamais le jour, pour deux raisons. D'abord, l'empereur s'était réfugié en Hollande, qui était un pays neutre pendant la Première Guerre mondiale, et les Hollandais disent « il est chez nous ». Vous leur reprochez des choses qui est l'atteinte aux traités, aux lois sacrées des traités. Ça n'existait pas dans la législation. Nous ne l'extradons pas. Et puis d'un autre côté, il y avait aussi les Belges qui avaient dit « Comment voulez-vous que nous, qui sommes une royauté, nous organisions un tribunal pour punir un empereur ?» Non, quand même, c'est pas possible, ça. Donc, toujours pas de juridiction internationale. Toujours des petits procès, notamment 45 procès en Allemagne pour punir des subalternes, mais pas les chefs. On va quand même à Genève faire des conventions pour protéger pendant la guerre les civils, les prisonniers, les combattants qui sont capturés. Et puis en 34 à Marseille, il y a le roi de Alexandre Ier de Yougoslavie, qui va être assassiné avec un ministre français qui s'appelait Bartou. C'est la première fois où on va parler de terrorisme. Et on va dire, ces gens-là, il faut les juger. Et là encore, on dit, on va créer un tribunal pour juger les responsables. Responsables qui étaient des Yougoslaves réfugiés en Italie. L'Italie a dit non. Moi, je ne les extrade pas devant un tribunal international. Ils ne seront pas jugés, on ne créera même pas le tribunal international. Quand on avait prévu ça, c'était 37, la Société des Nations. Inutile de dire qu'elle allait passer complètement dans l'oubli et que tout ça est oublié. Alors arrive la Seconde Guerre mondiale et c'est là que se produit un basculement. Un basculement que l'on avait déjà connu en 1915 en Arménie, quand les Turcs ont massacré des hommes, des femmes, des enfants, des civils. C'est là le début du basculement. Au XXe siècle, 80% des victimes sont des civils. À la différence de ce qui se passait au XIXe siècle. Et à plusieurs reprises, et notamment en octobre 1943 à Moscou, l'Union soviétique, l'Amérique et la Grande-Bretagne disent que un des buts principaux de la guerre est de juger les responsables de ces crimes. C'est un changement complet. Il y a des millions de morts et des millions de morts qui sont des civils. Ça ne s'est pas fait facilement. Parce que Churchill et son ministre disaient, mais écoutez, bon, vous voulez les juger, vous voulez créer un tribunal, écoutez, on les a capturés, on les a à notre disposition, on les met contre un mur et on les exécute sans aucune forme de procès. Fort heureusement, les autres, l'Union soviétique était pas loin de partager cet avis, mais enfin, les États-Unis, la France ont dit, on va créer un tribunal. Et c'est le tribunal de Nuremberg qu'on va créer le 8 août 45 à Londres. Et pour la première fois, on va pouvoir poursuivre des crimes contre l'humanité. On va poursuivre des crimes d'agression quand on attaque un pays, ce qui était le cas de l'Allemagne quand elle a attaqué la Pologne. Les crimes de guerre qui étaient déjà codifiés dans le code de la guerre de la Haye à la fin du 19e au début du 20e siècle. Mais grande nouveauté, on crée le crime contre l'humanité. Pourquoi ? Parce que, comme le dit Hannah Arendt, pour le nazisme, il importait de faire disparaître de la surface de la Terre, de l'humanité, toute une catégorie de personnes. Plusieurs catégories de personnes même. Hein. Et bien sûr, au premier chef, les Juifs, mais il y avait aussi les Tziganes, il y avait les francs-maçons, il y avait les homosexuels, etc. Mais il s'agit, le crime contre l'humanité, c'est un crime de lèse-humanité, c'est-à-dire qu'un groupe qui vit sur la Terre, qui apporte sa culture, qui apporte ce qu'il est, ce groupe, on veut le faire disparaître de la surface de la Terre. Le faire disparaître comment ? Dit le statut de 8 août 45, par l'extermination, l'assassinat, la déportation, la mise en esclavage. C'est une nouveauté extraordinaire, et autre nouveauté dont on reparlera sans doute, mais qui est aussi très importante, c'est que les chefs d'État sont au premier rang responsables. C'est pourquoi à Nuremberg, les grands responsables nazis qui avaient été capturés ont été jugés comme chefs de l'État nazis. Il y a eu des condamnations à mort qui ont été exécutées. Il y a eu quand même, et c'est ça qui est important, parce que c'était une juridiction internationale, il y a eu 3 acquittements. Il y a 3 personnes qui ont échappé à une condamnation. Imaginez, si on avait suivi Churchill, ce que seraient devenues ces 3 personnes. Bien, c'est le premier tribunal international qui va juger des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Il y en a un deuxième. Pour l'Extrême-Orient, le tribunal de Tokyo. Celui-ci, il a été créé par le général MacArthur, qui était le représentant des États-Unis en Extrême-Orient. Et là aussi, on va juger des responsables. À une exception près. Pourquoi ? Parce que nous sommes en janvier 46. La guerre froide va commencer. Et il ne fallait pas pour les États-Unis que l'on puisse poursuivre l'empereur, qui pourtant était le chef des armées, parce qu'il s'agissait de s'allier avec lui pour avoir en face de la Chine, en face de l'URSS, un allié puissant, qui est devenu un allié puissant au Japon. Alors pour expliquer, et c'était très intéressant pour montrer ce qu'étaient ces régimes, pour expliquer qu'on le laisse à part, le 1er janvier 1946, il va prendre ce qu'on appelle un rescrit, c'est-à-dire qu'il va reconnaître 2 choses. D'une part, qu'il n'est pas d'origine divine. C'est une nouveauté extraordinaire pour le Japon. Et d'autre part, que le Japon n'est pas un pays d'une race supérieure aux autres. Alors on va juger des chefs militaires, des responsables politiques importants, il y aura des condamnations à mort aussi. Et c'était la même définition du crime contre l'humanité. Mais à ce moment-là, on va rentrer dans la guerre froide. Et autant le 9 décembre 1948, quand les Nations Unies vont pour la première fois définir le génocide, qui est le principal crime contre l'humanité, elle va prévoir, l'Assemblée générale des Nations Unies, le 9 décembre 1946, la création d'un tribunal. 48. Il faudra attendre juillet 98 pour que ce tribunal soit créé. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, c'était la guerre froide avec les Nations Unies, où des pays comme la Chine, la Russie, comme les États-Unis, la France et l'Angleterre, ont un droit de veto. Il n'est pas possible de créer un tribunal, car aussitôt, l'URSS ou la Chine auraient opposé leur veto, et il n'était pas possible de créer un tribunal international. Il va y avoir des conventions des Nations Unies. Il va y avoir surtout dans notre monde d'autres crimes contre l'humanité, sur tous les continents. En Amérique du Sud, Ce sont les enlèvements suivis de disparition qui est un crime contre l'humanité. On prend des adversaires, on les fait disparaître, certains seront même jetés dans la mer du haut d'un avion ou d'un hélicoptère. En Afrique, Mengistu, en Éthiopie, va déporter des populations, commettre des massacres. Vous savez, en Extrême-Orient, le Cambodge, avec les Khmers rouges, tous ces crimes ont continué à se perpétrer, toutes ces atrocités contre des civils ont continué à se perpétrer et se perpétuent encore de nos jours. Alors, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est quand le mur de Berlin va tomber en 1989, en novembre 1989. On va à nouveau discuter de savoir s'il faut faire quelque chose. Et ce qui va changer, c'est que tout cela va ressurgir en Europe même, à 2 heures d'avion de Paris, dans l'ex-Yougoslavie. Vous avez entendu parler de ce que était l'épuration ethnique. Il fallait se débarrasser ici des musulmans, là des croates, là des serbes, etc. Il y a à ce moment-là, le mur de Berlin étant tombé, la crainte d'un veto n'existait plus. On se dit, mais il faut juger et il faut juger les responsables. Pourquoi l'initiative de la France? J'avais présidé la commission qui était au départ de cette affaire. Le Conseil de sécurité va créer le tribunal pour l'ex-Yougoslavie. Important, remarquez-le, c'est le Conseil de sécurité, pas l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, ça allait, on l'a vu après, ça allait prendre des mois, voire des années. Le Conseil de sécurité, il a une mission. Il a une mission de prendre toute mesure appropriée pour faire cesser les hostilités et maintenir la paix. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il faisait le Conseil de sécurité? Bon, il organisait des conférences, il leur donnait des embargos, etc. Pour la première fois, le Conseil de sécurité va dire, on va créer un tribunal pour juger les responsables. Et on va créer ce tribunal alors que la guerre n'est pas terminée, qu'elle se poursuit encore. Ce tribunal siège à La Haye. Et vous savez que Milosevic, le responsable, était en cours de jugement lorsqu'il est décédé. Donc c'est quand même quelque chose de nouveau, de même que pour l'Afrique et l'Amérique du Sud, on avait essayé de juger Pinochet. C'est les chefs qu'il faut atteindre. Pas les subalternes. Et un jour, un tribunal international, d'ailleurs, ne peut pas juger 1000 personnes, 2000 personnes. Il ne peut que juger un petit nombre de personnes et les responsables. Et puis, ça c'était en 93, en 94, il y a eu les événements du Rwanda qui ont duré quelques semaines, et avec 800 000, 1 million de victimes, 100 000 personnes en prison. Et là encore, le Conseil de sécurité des Nations Unies va créer un tribunal pour juger les crimes contre l'humanité qui ont été commis au Rwanda, et un tribunal qui siège à Arusha, en Tanzanie. Vous voyez donc qu'il y avait toute une évolution. Ça n'a pas empêché des exactions, etc. Mais ce sont des tribunaux internationaux qui ne sont plus les tribunaux émanant des pays vainqueurs, comme on l'a longuement reproché à Nuremberg et à Tokyo. À La Haye, pour l'ex-Yougoslavie, il y avait un Chinois, il y avait un Américain, il y avait un Français, etc., etc. Des gens qui n'étaient pas partis au conflit et qui sont de véritables juges et qui vont prononcer et ça aussi c'est important, qui ne seront pas des condamnations comme on faisait avant, systématiquement le maximum de la peine, mais des condamnations qui vont tenir compte de la personnalité de ceux qui sont poursuivis. Parallèlement, on a créé aussi des juridictions mixtes. C'est le cas notamment en Sierra Leone, composée de juges nationaux et de juges internationaux, et c'est le cas au Cambodge actuellement, où il y a des juges cambodgiens majoritaires et des juges internationaux. Tout ça parce que c'est tout un mouvement, il s'agit de réprimer ceux qui commettent des crimes contre l'humanité. Mais quand même, le mur de Berlin étant tombé, on se dit quand même maintenant, est-ce qu'on ne peut pas créer une juridiction internationale permanente, pour juger des crimes contre l'humanité, ceux qui sont en train de se commettre. Et c'est pourquoi, après de longues discussions, cette fois-ci, ce n'est plus le Conseil de sécurité. C'est l'Assemblée générale des Nations unies en juillet 1998 qui va décider la création de la Cour pénale internationale qui siège à La Haye. Alors, vous avez entendu parler, et même, sans doute, peut-être même aujourd'hui ou hier, elle est saisie de quelques dossiers, cette Cour pénale internationale, notamment pour ce qui s'est produit au Darfour et la demande du procureur de mettre en accusation le président du Soudan. Il y a aussi des cas au Congo où la guerre continue toujours et où il y a eu aussi des exactions. Est-ce qu'on est au bout de nos peines? Certainement pas. Certainement pas. Parce que cette Cour, pour qu'elle puisse fonctionner, il faut qu'elle soit saisie. Et tous les pays n'ont pas accepté la création de cette Cour pénale internationale. Et notamment pas les États-Unis, ni la Chine, ni l'Inde, ni Israël. On ne peut donc pas saisir, le Conseil de sécurité pourrait le faire, il l'a fait pour le Darfour, en principe, c'est une Cour qui n'est pas universelle, qui n'est pas internationale complètement. Le sera-t-elle un jour? Il faut l'espérer. Il faut que les évolutions se produisent. Mais ce n'est pas une Cour pénale totalement internationale. Bon, elle essaye d'agir en Afrique actuellement. Et Dieu sait s'il y a là des faits qui doivent être réprimés. Mais c'est pas encore tout à fait une Cour pénale internationale qui pourrait être universellement reconnue pour juger tous les crimes contre l'humanité et espérer, dans la mesure où c'est les chefs qu'on poursuit, espérer qu'il y aura dans les guerres un sursaut, un revirement qui feront que ces guerres seront moins terribles, seront condamnées par les responsables. On n'en est pas là. Mais, bon, des progrès ont été faits en plusieurs directions. La première direction, c'est que depuis 1945, le crime contre l'humanité est imprescriptible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les infractions ordinaires, au bout d'un certain temps, on ne peut plus les poursuivre. C'est le cas en France, pour les contraventions, les délits, les crimes, parce qu'on estime que le temps a passé, que peut-être l'auteur s'est amendé, que l'ordre public est moins atteint, on ne peut plus poursuivre, l'infraction est prescrite. Ici, le crime contre l'humanité est imprescriptible. C'est-à-dire qu'on peut poursuivre les auteurs jusqu'au dernier jour de leur vie. C'est pour ça qu'on a pu poursuivre Barbie. Il avait 72 ans. Les crimes remontaient à 1944. On l'a jugé en 87. C'est imprescriptible. Deuxième règle, comme je vous l'ai dit, et ça c'est très important, les tribunaux internationaux ne peuvent et ne sont là que pour juger les responsables. Pas les subalternes. Des subalternes qui soient jugés dans leur pays quand il est revenu à une vie normale. C'est ça qui est important. Vous rendez compte par rapport au passé. Je sais bien que Jules César avait assassiné Vercingétorix. Mais dans les guerres, qu'est-ce qu'il y avait quand un pays était vaincu? Les Napoléons, on les envoie à l'étranger. On les juge pas, on les bannit. Tandis que là, ce qui est encouru, c'est la peine contre les principaux dirigeants. La troisième innovation importante, aussi bien pour l'ex-Yougoslavie, le Rwanda, que pour la Cour pénale internationale, c'est que la peine de mort n'est plus encourue. Pour ces crimes particulièrement graves, la peine de mort n'est plus encourue. La peine de mort, actuellement, elle est hors la loi en Europe avec la Convention européenne des droits de l'homme, mais dans nombreux pays du monde, la peine de mort est en diminution. Et l'exemple a voulu être donné par les Nations Unies. Pas de peine de mort, même pour les criminels contre l'humanité. Et si on suit bien les jurisprudences, on voit qu'à La Haye, les condamnations perpétuelles sont un peu l'exception, mais qu'il y a aussi des peines qui sont beaucoup moins sévères. On tient compte de la personnalité de l'auteur, de ce qu'il a fait, etc. Ce qu'on appelle le principe de proportionnalité. Et en même temps, on arrive petit à petit à étendre la définition des crimes contre l'humanité, à la préciser. Le crime contre l'humanité principal, essentiel, je vous l'ai dit, c'est le génocide. Qu'est-ce que c'est qu'un génocide? C'est bien sûr tuer directement, mais c'est aussi mettre dans des conditions de vie telles que la mort doit s'en suivre, ou créer des conditions psychiques telles qu'il n'y a plus de façon d'être encore un homme. Hein. Et puis dans le génocide, il y a un autre cas, qui est un cas assez exceptionnel, mais qui a existé en Amérique du Sud, mais aussi sous le régime nazi. C'est-à-dire prendre un enfant à une communauté juive, pour le confier à une famille stérile, SS par exemple, pour qu'il soit élevé en dehors. L'enfant est en bas âge, il vient de naître, il ne sait pas ce que c'est que d'être juif. Il faut que... C'est une autre façon de faire disparaître une race, de le confier ailleurs. Et c'était le cas aussi en Amérique du Sud, où des opposants politiques, morts en prison, ont vu leur enfant enlevé et confié à des couples argentins, notamment, pour être élevés en dehors de l'opinion politique de leur famille. C'est un crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité, c'est aussi des pratiques systématiques de torture, de déportation, de mise en esclavage, et aussi, maintenant, des pratiques systématiques de nature sexuelle. Et ce qui s'est fait en Yougoslavie est un crime contre l'humanité. Le fait de violer une femme, de l'obliger à garder l'enfant, imaginez ce que c'est pour une femme musulmane d'être exclue de son milieu parce qu'elle a été violée et parce qu'elle a eu un enfant. C'est un crime contre l'humanité. C'est dire que les définitions s'étendent. Un jour, peut-être, il y aura des définitions qui classeront comme crime contre l'humanité des atteintes au patrimoine biologique pour constituer des esclaves. Voyez donc que le crime contre l'humanité apparaît au XXe siècle compte tenu de tout ce qui s'est fait contre les populations civiles, qu'il y a des perspectives mais qu'on n'est pas au bout. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi autre chose de très important. Et prenons l'exemple notamment de l'Afrique du Sud, qui, dans l'apartheid, l'apartheid est classé dans les crimes contre l'humanité, a connu des crimes de sang, des crimes d'apartheid, etc. Et puis, un jour, l'apartheid, c'était fini. Après 27 années de prison, est devenu premier président de la République sud-africaine, Nelson Mandela. Et en face de ces crimes contre l'humanité, il a été décidé qu'il fallait une réconciliation dans le pays et que, sous certaines conditions, les criminels contre l'humanité ne seraient pas poursuivis. Quelles étaient ces conditions? Il fallait que publiquement, y compris devant la télévision, ils reconnaissent les crimes qu'ils avaient commis. Aveu intéressé, aveu sincère, on n'en sait rien. Mais nombre de personnes se sont trouvées amnistiées parce qu'elles ont avoué publiquement les crimes qu'ils avaient commis. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu de punition, et notamment Desmond Tutu, qui présidait la commission justice et réconciliation, Desmond Tutu dit que dans beaucoup de familles, une femme ou des enfants ont appris par ces auditions publiques ce qu'avait fait leur mari ou leur père, et que ça a été l'origine de drames. Mais il n'empêche que ça a été tenté, pour plusieurs raisons. Il y a une raison technique, c'est que la preuve de la culpabilité n'était pas toujours facile à rapporter. Il y a une autre raison, ce qu'en Afrique du Sud on appelle l'ubuntu, c'est la relation avec l'autre. C'est une tradition africaine, Desmond Tutu le dit bien, cette justice-là, c'est une tradition africaine. Et il s'agit de pardonner. C'est pas une amnésie, disent-ils. C'est pas une amnésie, mais il faut savoir ce qui s'est passé et on ne condamnera pas. Qu'en sera-t-il de l'avenir? Qui peut le dire? Mais l'exemple a été suivi au Rwanda avec les juridictions Gachacha, qui là aussi sont des juridictions populaires. Un homme élu dans la société, élu par le village, va juger ceux qui reconnaissent leurs crimes publiquement devant leurs victimes, devant le village. À ce moment-là, eux ne sont pas amnistiés comme en Afrique du Sud, mais ils subissent une peine moindre que celle qu'ils encouraient, dont une grande partie est transformée en travail d'intérêt général. Qu'est-ce que ça donnera dans l'avenir? Si le crime contre l'humanité est imprescriptible, c'est qu'il peut passer les siècles. Souvenez-vous de ce qui s'est passé aux États-Unis des siècles après l'esclavage des ancêtres, de la part des Noirs qui se sont révoltés pour faire valoir leurs droits dont ils avaient été lésés parce qu'on les considérait autrefois comme des meubles. Souvenez-vous de ce qui s'est passé au Canada avec les révoltes des Indiens. Le crime contre l'humanité, qui est celui, comme je vous l'ai dit, qui veut faire supprimer de la surface de la Terre toute une catégorie de personnes. Pour cette catégorie de personnes, ça passe les siècles. Alors qu'en sera-t-il en Afrique du Sud, quand le temps passera? Il était prévu des reconnaissances pour les victimes en donnant leur nom à des stades ou à des écoles, en les indemnisant, mais ça s'est pas passé. Est-ce qu'on peut dire que le crime contre l'humanité n'aura pas des sursauts? Vous savez, pour les juifs, au procès Barbie, il y a une femme déportée juive qui disait: quand je suis rentré, j'ai voulu raconter. Ou les gens pleuraient, ou ils ne croyaient pas. J'ai plus rien dit. Et ce n'est que plus tard que les enfants, les petits-enfants, ont voulu qu'on reconnaisse ça. C'est le crime contre l'humanité passe les siècles. Voilà donc ce qu'on peut dire du crime contre l'humanité. Dans notre pays, il a été, certains ont été légaux à un moment donné, et on n'est pas au bout de la recherche, on n'est pas au bout de la diffusion partout d'une jurisprudence, d'une cour pénale internationale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en France? Je vous l'ai dit, le crime contre l'humanité était créé le 8 août 1945. La guerre est finie depuis 2-3 mois en France. Et surtout, Paris était libéré en août 1944. À ce moment-là, le gouvernement provisoire a pris des dispositions législatives, ou par ordonnance, il en avait déjà pris à Alger, pour juger les Français collaborateurs et les Allemands coupables de crimes. Mais pas de crimes contre l'humanité, ça n'existait pas. On se réfère au code pénal français, puisqu'il existait, et c'est des crimes du code pénal français qui vont être reprochés, avec des interprétations. Et notamment, la soumission dans une chambre à gaz a été traduite par la loi comme étant un empoisonnement. Ça en 1944. Quand on dit qu'en 1944, beaucoup ignoraient l'existence des chambres à gaz, bon, il faut se reporter à la loi du 26 août 1944. Hein, 26 août 1944. Donc à ce moment-là, on va juger vite. De Gaulle avait dit, hein, jugez vite les responsables et après, on se réconcilie avec l'Allemagne et des amnisties interviendront. On va les juger vite, il y a plusieurs condamnations à mort exécutées, plusieurs centaines de condamnations à mort exécutées. Quand Pétain est jugé en France, Pétain était, je le dis pour... peut-être le savent-ils déjà, j'en suis sûr, les jeunes lycéens, Pétain était le chef de l'État français. Quand il est jugé, c'est en août 1945. Il est jugé pourquoi ? Il est jugé pour avoir entretenu avec une puissance étrangère, en temps de guerre, des intelligences, comme on dit. C'est-à-dire d'avoir collaboré avec les Allemands. Il est jugé pour ça, condamné pour ça. Vaguement dans le jugement, on dit que, en une phrase, hein, que le gouvernement avait pris des dispositions contre les Juifs à l'initiative de l'Allemagne. C'est pas vrai. La loi d'octobre 40 contre les Juifs était une loi d'initiative signée par Philippe Pétain, une loi d'initiative des Français. Pour parler des Juifs au procès de Pétain, y aura-t-il le pasteur Bugner qui en parlera longuement, Édouard Herriot, maire de Lyon, qui en parlera un peu, et tous les autres qui viendront parler des Juifs sous Pétain, ce sont des gens favorables à Pétain qui viennent dire « Mais Pétain, il a sauvé des Juifs ». C'était tout. Il n'était pas question à ce moment-là, de crime contre l'humanité, qui n'était pas encore dans les textes, mais même de ce qui avait été commis contre les Juifs. Alors la répression va se poursuivre, il y aura donc des condamnations à mort, le temps passera, De Gaulle et Adenauer vont réconcilier la France et l'Allemagne, des amnisties interviendront, des mesures de grâce interviendront, c'est ainsi que Aubert Gegneron, qui était les chefs des SS en France, les supérieurs de Barbie, condamné à mort en France, était en liberté en Allemagne, comme Barbie était condamné en France. Alors, quand est-ce qu'on a commencé à s'intéresser aux crimes contre l'humanité en France? D'abord par un certain Touvier. Touvier était un chef régional de la milice dans la région lyonnaise et grenobloise. Et puis, il avait été condamné à mort, mais sa peine était prescrite, on ne pouvait plus le mettre en prison. Alors, bêtement, il faut bien le dire, comme il était condamné à mort, mais peine prescrite, il restait interdit de séjour en Savoie, et ses biens étaient confisqués. Bêtement, il a demandé au président de la République, Pompidou, par l'intermédiaire d'un évêque lyonnais, il a demandé d'être gracié pour pouvoir rentrer en Savoie et récupérer la maison familiale. Il a malheureusement été gracié, mais quand il est revenu en Savoie et qu'on l'a trouvé à la ravoir dans sa maison, inutile de dire que les résistants ont fait tout un scandale et qu'à ce moment-là, on a pensé au crime contre l'humanité et on a dit on va le poursuivre pour crime contre l'humanité. Alors il va redisparaître dans des couvents pendant plusieurs années. Il sera condamné que plus tard, après Barbie. Alors, qui était Barbie? Là, je veux vous faire une lecture, parce qu'on parle beaucoup des bourreaux. Comment devient-on un bourreau? Barbie était né en 13. En 33, il va passer l'abitur en Allemagne, c'est-à-dire l'équivalent du baccalauréat. Et à ce moment-là, en Allemagne, quand on passait l'abitur, on devait se présenter dans un écrit. Par chance, on a retrouvé dans son lycée cet écrit. C'était le lycée de Karl Marx, d'ailleurs. Et le proviseur de ce lycée était étonnant qu'on vienne dans son lycée chercher des renseignements sur Barbie, alors que Karl Marx était quand même plus universellement connu. Et voilà ce qu'il écrivait. Il a 20 ans, en 33. Il est d'une famille, ses parents étaient instituteurs, son père a été blessé à la guerre de 14, Je fis partie d'une association catholique de jeunes gens. Ma vie sportive a pour cadre la vigoureuse jeunesse allemande. Plus tard, je fus, et je suis encore membre d'une association masculine de bienfaisance à Trèves, dont l'activité essentielle concerne la mission des gares et des prisons. Je fis beaucoup de visites aux prisonniers qui me laissèrent une très forte impression. Dans les conversations avec ces gens, j'eus à écouter plus d'une amère misère humaine et plus d'une amère destinée. Toutes ces occupations apportèrent beaucoup à ma formation. Elles furent un excellent complément à celle que l'école m'offrait. L'année 33, prise du pouvoir par Hitler, apporta de grands bouleversements à notre patrie, mais également de grands changements dans la famille par des décès. Et il parle du puissant soulèvement national qui l'attira, moi aussi, comme chaque vrai jeune Allemand, puissamment sous son charme, et c'est ainsi qu'aujourd'hui, je peux me placer comme membre serviteur dans la grande suite du Führer. Je crois que ce texte est très important. Voilà 20 ans, un homme qui est visiteur des prisons, qui est plein de compassion pour ce qu'il voit. Il s'engage dans le national-socialisme. Il va passer 2 ans dans une école de SS près de Berlin et il va devenir ce qu'il a été, c'est-à-dire un tortionnaire impitoyable. Et jusqu'au dernier jour de sa vie, il n'a jamais relié ce que Hitler appelait, quand il a écrit Mein Kampf en 1925, quand il était en prison pour la suite d'une tentative de coup d'État, Hitler disait, ce que j'écris, c'est pas une doctrine politique, c'est une philosophie pour 1000 ans. Et ceux qui ont adhéré à cette philosophie, on le voit dans les procès des nazis, ils sont restés fidèles à cette philosophie, et pour Barbie jusqu'au dernier jour de sa vie. Mais imaginez comment un homme va, en se livrant à ses activités, va complètement occulter ce qu'il avait connu et qui avait contribué à son éducation. C'est la compassion qu'il avait pour les prisonniers. Lui, il va garnir les prisons. Alors, qu'est-ce qu'on lui reprochait? On lui reprochait, d'abord, il arrive à Lyon quand la zone libre est occupée, c'est-à-dire en novembre 42, et dès, il était donc SS, membre de la Gestapo, numéro 3 à Lyon. Numéro 3, hein, c'était pas le grand chef des SS à Lyon, il était le numéro 3, mais un numéro 3 particulièrement actif, particulièrement indépendant dans ses actions, et qui va commettre les faits qu'on pouvait lui reprocher parce qu'il constituait des crimes contre l'humanité, c'est-à-dire, en dehors de cas individuels, de meurtre de juifs, la rafle de l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France, qui avait un local à Lyon, Cette Union générale des Israélites de France est une organisation de charité officielle reconnue par Vichy, où les gens venaient pour avoir des subsides et aussi des faux papiers pour essayer de passer en Suisse. Et un jour de février 1943, Barbie arrive là-bas, et tous ceux qui arrivent sont arrêtés. 86 sont arrêtés, deux réussiront à s'échapper, mais les 86 partiront très vite, en déportation, dont très peu sont revenus. Le deuxième fait important qui lui était reproché, c'est la rave des enfants d'Isieux. À Isieux, quand c'était encore sous le contrôle italien, et grâce à un sous-préfet de Belley, c'était organisé dans un local, une école qui recevait des enfants juifs qui n'avaient plus leurs parents parce qu'ils étaient déportés, etc., ou morts. Et ils ont reçu plus de 100 enfants juifs. Et le 6 avril 44, il y en avait encore 44 avec leurs éducateurs. Ce jour-là, une troupe de la Wehrmacht qui rentrait de lutte contre le maquis au Lierre et qui le lendemain devait partir lutter contre le maquis dans le Jura, fait un détour dans ce petit pays que certains d'entre vous connaissent. Pour y arriver, il faut le savoir, hein, c'est en dehors de la route principale, il faut grimper, c'est une route en lacet qui monte jusqu'à cette école. Et ce jour-là, au moment du petit déjeuner, ils vont arrêter les enfants et leurs éducateurs. Une seule éducatrice reviendra. Ils seront transférés très vite à Auschwitz, et pour les deux plus grands, et le directeur de la colonie dans les Pays-Baltes, où ces trois-là sont fusillés, mais les autres sont gazés à leur arrivée, par une éducatrice qui s'en sortira et qui après va immigrer en Israël. Des enfants, 44 enfants, qui certains étaient en bas âge et qui avait trouvé ici un havre de paix, loin de ce qui s'était passé dans leur famille. La troisième chose, c'est le 8 août 44, les alliés sont déjà pas loin de Paris, hein. L'Allemagne commence à se replier, etc. Mais à Lyon, il y a des détenus à la prison de Montluc, tant des résistants que des juifs. On est le 8 août 44. Eh bien, Barbie va décider qu'ils doivent être déportés. Le 8 août 44, on va trouver un train, alors que les armées en avaient besoin pour aller sur les combats, on va trouver un train qui va emmener 600 personnes, moitié de juifs, moitié de résistants, vers les camps de concentration. Certains iront au Struthof, les femmes iront à Ravensbrück, les hommes non-juifs iront à Dachau, et les juifs iront à Auschwitz, où la plupart seront exterminés. Et dans ce train, on le sait, il y avait dans les bras de son père dont les cheveux ont blanchi en une nuit, il y avait un enfant de moins de 2 ans. Hein. Voilà ce qui lui était reproché. Et le grand problème juridique qui s'est posé, c'était de savoir si il devait, résistant et juif, subir le même sort juridiquement. Parce que le problème des résistants, c'était des combattants. C'est-à-dire que normalement, contre eux, c'était des crimes de guerre. Mais la Cour de cassation, considérant que s'ils étaient rentrés dans un camp de concentration, ils avaient subi des conditions de vie inhumaines et qu'en conséquence, on pouvait tous les poursuivre. Ce qui fait que, juridiquement, vous voyez la différence. Jean Moulin, torturé par Barbie envoyé en Allemagne, meurt dans le train, il ne rentre pas dans le camp de concentration, c'était pas un crime contre l'humanité. Mais d'autres qui sont entrés dans le camp de concentration et qui sont revenus, c'était des crimes contre l'humanité. Il y a là des subtilités juridiques qui sont contraires au droit international pour une raison très simple. Pour une raison très simple, c'est que le droit français n'a jamais voulu reconnaître que le crime de guerre était imprescriptible. Pourquoi il n'a jamais voulu le reconnaître? Ben parce que notre pays s'était engagé dans des guerres en Indochine, en Algérie, et qu'on ne voulait pas, etc. Donc voilà, Barbie, là, Lyon, il évacue Lyon, il va en Allemagne, et lui qui était lieutenant de police, il obtiendra un avancement, malgré tout ce qu'il avait fait à Lyon, notamment l'arrestation de Jean Moulin, il ne deviendra capitaine qu'en Allemagne. La guerre arrive, la fin de la guerre arrive, il va commettre, pour se procurer de l'argent, une escroquerie, et puis il va aller voir les Américains et leur dire, écoutez, vous luttez, la guerre froide arrive, vous êtes opposés aux communistes, vous savez, moi je suis un spécialiste de la lutte contre le communisme. D'accord, les Américains l'engagent. Puis un jour, les Français apprennent ça et ils veulent l'entendre. Les Américains disent, oui, ben vous pourrez l'entendre, mais seulement en notre présence. Puis on vous le remettra jamais, parce que si on vous le remettait, vous le tortureriez. C'était quand même un peu gros, quoi. Hein. Au moment du procès Barbie, le gouvernement des États-Unis a présenté des excuses à la France. Parce que si nous l'avions remis, ben Barbie n'aurait pas été en vie bien longtemps après ça. Bon. Il va donc, à la suite de ça, comme on sait qu'il est en Allemagne au service des Américains, les Américains vont l'envoyer en Bolivie par ce qu'on appelle la rat line, la filière des rats, qui était dirigée par un prêtre croate au Vatican. Il arrive en Bolivie. Et là, il va se mettre au service du dictateur qui était à l'époque en place et continuer, sous le couvert d'une activité commerciale, continuer ce qu'il avait fait là-bas, ce qu'il avait fait chez nous. Puis un beau jour, les dictateurs sont remplacés par un régime démocratique et en peu de temps, comme il s'était fait naturaliser sous le nom de... sous un faux nom, Asman... Altman. Les Boliviens disent, là, vous avez trompé en prenant un faux nom, donc on vous retire la nationalité bolivienne et on vous met dans un avion. Ils pensaient que l'avion atterrirait en Allemagne. Il a atterri dans une île française où les gendarmes l'attendaient. C'est comme ça qu'il a été arrêté, qu'a eu lieu son procès. Ce procès, je crois que ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est que ce procès, dont vous disiez que c'était le premier procès en France pour crime contre l'humanité, ce procès ne pouvait pas être un procès extraordinaire. La justice ne peut faire que des procès ordinaires. C'est-à-dire qu'il a eu tous les droits de la défense. Il a pu se défendre comme il entendait. Quand il a décidé qu'il ne viendrait pas à son procès, la loi le prévoit. Ben, il a resté en prison, on l'a fait venir que 2-3 fois, par la force, enfin la force il se laissait faire. Il fallait que tout se déroule dans les règles les plus strictes pour que le procès ne soit en rien contesté. Et notamment en ce qui concerne la preuve, on était en 87, hein, les faits remontaient à 43 et 44. Par exemple, pour le train du 11 août 44, est-ce que c'est lui qui avait recruté tous ceux qui ont été déportés? Eh bien, sur le quai de la gare, avec la plus entière bonne foi, hein, compte tenu du temps écoulé, des déportés disaient les uns, il était en uniforme. Les autres qu'il était en civil, les uns qu'il a fait un discours en allemand, les autres qu'il a fait un discours en français. Ça ne permettait pas une preuve. Mais par chance, on a eu deux témoins, mais notamment l'une d'entre elles, qui était une assistante sociale résistante, et qui, avant avant l'arrestation de Barbie comme résistante, assistante sociale, elle avait rencontré Barbie à la Gestapo pour lui demander des permis de visite pour des prisonniers. Ensuite, elle est arrêtée comme résistante, elle est internée à Montluc. Et quand cette femme qui connaissait Barbie comme étant Barbie, chef de la Gestapo, responsable de la Gestapo à Lyon, vient dire, moi j'étais à Montluc, c'est lui qui venait dans les cellules, qui les faisait ouvrir et qui prenait les gens. Ça, ça peut être reçu comme preuve. Et dans les autres cas, l'UGIF et Lisieux, il y avait chaque fois des textes signés Barbie. Et grâce à des procureurs allemands que j'avais fait venir, qui s'occupent de la lutte contre le nazisme en Allemagne, ils nous ont bien expliqué comment, selon la façon dont c'était signé, c'était soit par le directeur, soit par celui qui était l'auteur, soit par quelqu'un qui l'avait délégué. Or, tous ces textes, c'était formel, ils étaient signés par Barbie comme étant celui qui était responsable de l'opération. Car il faut bien se mettre dans ce qu'était le nazisme. Le nazisme, c'était Befehl ist Befehl, l'ordre c'est l'ordre, il y a une hiérarchie qu'on n'a pas le droit de court-circuiter, et c'est comme ça qu'on a pu condamner Barbie. Il a fini ses jours en prison, ensuite ont été condamnés pour crime contre l'humanité Touvier puis Papon. Et ce qui est important, j'en terminerai par là, pour ce qui est de Papon, c'est que c'est important de montrer que lorsque on fait juger par des tribunaux, ça ne peut être que dans le respect des règles très strictes. Pour Papon, on lui reprochait notamment des complicités d'assassinat, parce que les gens qu'il avait fait déporter avaient été tués en camp de concentration. La cour d'assises l'a relaxé pour ça, l'a pas condamné pour ça, parce qu'elle n'avait pas la preuve qu'il savait que partant en Allemagne, ils allaient mourir. Mais par contre, elle l'a condamné pour déportation. Parce que ça, c'est lui qui signait, c'est lui qui était responsable. Et la deuxième chose qui recoupe ce que je vous ai dit, c'est que, alors que Barbie, dans ce qu'on lui reprochait, il y avait plus de 800 victimes, hein, plus de 800 victimes. Touvier, il n'y en avait que 7. Tous deux ont été condamnés à perpétuité. Papon, il a bénéficié de circonstances particulières. Il n'était jamais que secrétaire général de préfecture. Le préfet avait été inculpé, mais il n'a pas pu être poursuivi parce qu'il est mort entre-temps. Il a été condamné à 10 ans. C'est la personnalisation des peines. Voilà donc ce qu'est devenu le crime contre l'humanité en France. Il est rentré dans le code pénal, alors qu'il n'y était pas avant. C'est quelque chose qui a été très important, le procès Barbie, vous le disiez, c'était important pour les victimes. Il y a cette femme qui disait qu'elle n'avait plus rien dit, mais elle est venue nous raconter des choses au procès Barbie, parce que là, elle voulait enfin parler. Le temps avait passé, mais elle voulait enfin parler. Il y a une femme qui est venue nous dire, ben avant de venir, j'ai demandé à deux de mes collègues déportés avec moi si j'avais le droit de dire quelque chose sur la situation physiologique dans laquelle nous nous trouvions en déportation. Je vais vous raconter que c'est un moment où ils ont voulu parler, et j'en terminerai par là, cette femme déportée qui, dans la nuit du verdict, vient me voir et me dit « je vais enfin pouvoir dormir ». Voilà, ben il nous reste une demi-heure pour des questions.
Il y aura deux micros mobiles dans les allées latérales. Deux de nos amis de Résistance Lycée Lalande.
Vous savez, la première question est toujours difficile à poser, alors on passe tout de suite à la deuxième, hein, ça viendra plus vite. Ici.
Surtout pour ça. Bonjour. S'agissant du procès de Ravier en l'occurrence et du crime contre l'humanité, est-ce que. Et du principe de non-rétroactivité de la loi, au moment où le crime contre l'humanité est créé, c'est postérieur aux actes. Comment vous l'avez pris, comment vous l'avez vécu, comment ça se passe?
Pour la France, ça a été relativement facile parce que ce qu'on a reproché à Barbie, ce sont des crimes qui existaient dans le code pénal quand il les a commis. Des assassinats, puisqu'il a personnellement, des enlèvements, des déportations, etc. Ça existait. Et on a dit que c'était dans le cadre d'un crime contre l'humanité pour le rendre imprescriptible. C'est la procédure qui a fait entrer le crime contre l'humanité. Mais les crimes étaient des crimes qui existaient déjà. Et c'était une des grandes questions à Nuremberg. Le juge français était le professeur Don Dieu de Vabre. Et il explique bien qu'ils ont eu pour le crime contre l'humanité. Il dit le crime contre l'humanité à Nuremberg. Il est rentré par la petite porte et il s'est évanoui dans le jugement. À Nuremberg, le crime de guerre a absorbé le crime contre l'humanité. Et c'était important pour le crime de guerre. Parce que le crime de guerre, c'était déjà des textes internationaux, les accords Briand, Kellogg, les conventions de La Haye, ça existait déjà. Et c'est en rapprochant des crimes de guerre qu'ils ont pu, parce qu'ils avaient énormément de réticences. Alors si vous voulez, en gros, le crime de guerre à Nuremberg a absorbé le crime contre l'humanité. Et dans le procès Barbie, c'est le crime contre l'humanité qui a absorbé le crime de guerre commis contre des résistants. Mais nous n'avons pris que des textes, il y avait des complicités d'assassinat, parce que lui savait quel était le sort à Auschwitz ou dans des camps de concentration, lui le savait. Le numéro 1 des SS à Lyon, qui participait à la lutte contre le maquis des Glières avec des miliciens. Les miliciens lui ont dit écoutez, remettez-nous ceux qu'on a arrêtés, on va les faire comparaître devant les tribunaux de la milice qui existaient, et vous verrez, ils seront condamnés à mort. Et le colonel Clam lui a répondu, non, ils seront déportés, et croyez-moi, leur sort ne sera pas meilleur. C'est les SS qui étaient dans les camps de formation et qui savaient très bien qu'est-ce qui attendait. Donc nous, on pouvait poursuivre pour complicité d'assassinat, à la différence de Papon. Et on poursuivait aussi, et c'était vrai pour les yeux, mais pour d'autres enfants aussi, l'enlèvement d'un enfant suivi de mort était puni de la peine de mort, dans le droit commun. Si vous enleviez un enfant pour obtenir une rançon et que pendant qu'il était enlevé, il mourait, c'était puni de mort. On ne cherchait pas quelle était l'origine de la mort, si elle avait été voulue par celui qui est enlevé. Puis il y avait les déportations qui nous ont permis de poursuivre, pour des faits qui existaient. Madame, ici.
Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de la Cour pénale internationale de La Haye? Est-ce que les pays qui la refusent, c'est simplement parce que la peine de mort est dans leur législation?
Je vais vous lire ce que disait M. Colin Powell quand on l'a interrogé là-dessus. C'est dans un article du Monde, d'ailleurs. La Cour pénale internationale est une source de difficultés. Plus que toute autre nation, nous envoyons nos jeunes hommes et jeunes femmes à travers le monde, ce qui tente à faire de nous, pour parler franchement, la cible la plus large. Les gens vont avoir tendance à trouver des fautes dans ce que font les États-Unis. En outre, nous estimons que nos jeunes hommes et jeunes femmes, qui sont volontaires et qui sont envoyés par leur famille pour participer à ce genre d'opération, devraient relever de la Constitution des États-Unis et des lois américaines. La Cour pénale internationale reconnaît cela, mais le traité de Rome dit que si les procureurs et les juges considèrent que les États-Unis n'ont pas agi d'une manière qui la satisfasse, ces procureurs et ces juges se réservent le droit d'inculper les jeunes gens mis en cause. Cela va à l'encontre de nos convictions les plus fortes concernant la primauté de la Constitution américaine. Ce n'est pas seulement une préoccupation pour nos militaires ou pour les dirigeants politiques, c'est un souci profondément ressenti dans le pays et au Congrès. C'est-à-dire, nous, on est les États-Unis, on est les meilleurs. Qu'est-ce que vous vous occupez de ça? Nous sommes tout à fait capables de d'occuper de ce que peuvent faire nos jeunes gens et nos jeunes femmes. En oubliant une chose, hein, c'est que la Cour pénale internationale, c'est pas pour juger les jeunes gens et les jeunes femmes, c'est pour juger les chefs. Mais c'est peut-être aussi la raison profonde pour laquelle ils ne veulent pas d'une Cour pénale internationale. Et c'est vrai dans notre pays, hein, regardez le Soudan, toutes les difficultés qu'il y a à poursuivre le chef du Soudan. Oui, devant.
Est-ce que le point de départ pour les États-Unis, est-ce que ce n'est pas Hiroshima et Nagasaki?
Écoutez, quand je vous ai dit que le XXe siècle, c'était un siècle où les civils étaient victimes de la guerre, et que ce soit n'importe où en Allemagne, à Hiroshima, à Nagasaki, les 100 000 personnes qui sont mortes à Hiroshima, c'était des civils. Hein. Et ça, c'est un crime de guerre. C'est incontestablement des crimes de guerre. Mais qui va les poursuivre? Là-bas dans le fond, je crois, non?
Oui. Bonjour. Vous avez pour habitude de dire qu'il faut traiter de manière ordinaire des procès extraordinaires. Est-ce que vous avez hésité longtemps pour votre intervention au procès Barbie, la manière dont vous alliez justement jouer à votre jeu d'acteur? Parce que vous avez quand même en face Clarence Fedd et le Carius qu'on lui connaît. Et... et de l'autre, Vergès, Monsieur Vergès, qui s'est... Non, il est sur les planches d'un théâtre.
Je crois que si vous voulez être crédible, un magistrat, il a qu'une obligation, c'est de respecter la loi. Il ne peut pas l'appliquer aux autres s'il ne la respecte pas lui-même. Hein. On ne peut pas, comme Churchill, dire « on sait qu'ils sont coupables, on les met contre un mur et on les fusille ». Ce qu'il faut, c'est prouver. Et, alors, le système Vergès qui a été, au moment de la guerre d'Algérie, un avocat qui a fait jouer... Il y a deux façons, hein. Pour un avocat, c'est ou la défense de connivence ou la défense de rupture. Ce sont deux termes qui sont apparus au moment de la guerre d'Algérie. La défense de connivence, c'est de dire au tribunal, je partage les mêmes valeurs que vous, j'applique les mêmes textes, mais je suis là pour vous dire ce qui est en faveur de mon client. La défense de rupture, qui était très très longtemps et très souvent utilisé par Vergès et par d'autres, hein, c'est de dire je ne vous reconnais pas comme tribunal ayant le droit de juger mon client arabe appartenant au FLN parce que vous êtes un pays d'occupation et que mon client ne peut répondre que devant un tribunal arabe. C'est la défense de rupture. C'est pas la défense qu'il a prise au procès Barbie. Hein. La défense au procès Barbie, c'est ce que j'ai appelé une défense de dérivation. Il ne s'est pas intéressé au problème juridique de savoir si on devait leur poursuivre 600 ou 300 déportations. Il a laissé faire. Son seul objectif et sa seule défense a été de dire, vous jugez un lieutenant de police à Lyon pour des crimes même nombreux. Je vous rappelle que la France coloniale en Afrique a fait pire. Notamment quand a été créée une voie ferrée, je ne sais plus entre quelle ville et quel pays et quel pays. Donc vous ne pouvez pas... qu'est-ce que vous voulez faire de Barbie, qui est un lieutenant de police, alors que la France, elle-même, a commis des crimes impardonnables en Afrique. C'est une défense de dérivation, c'est-à-dire qu'on ne plaide pas. On ne plaide pas le procès qui est en cause, on fait un autre procès. Et le dernier jour, au moment des plaidoiries, on a vu arriver deux avocats et qui n'avaient jamais assisté au débat, on savait même pas qu'ils existaient, qu'ils étaient choisis par Barbie, un noir et un Algérien qui sont venus plaider cette même cause. Donc, en face de ça, que voulez-vous que nous disions ? Nous étions là avec des crimes qu'il fallait prouver et pour lesquels il fallait demander une sanction. C'est l'ordinaire, c'est ce qui se fait tous les jours dans tous les tribunaux. Il n'y avait aucune raison que l'on rentre dans la même façon de concevoir les choses que Barbie. Vous savez, Barbie, il n'a pas donné d'avocat aux enfants d'Isieux, hein, ni aux personnes qui l'arrêtaient. Même, si vous voulez, une fois, on lui présente quelqu'un en disant on l'a arrêté dans la rue, c'est un juif. Il ne va pas vérifier s'il a été circoncis. Ce qu'il va faire, c'est le rouer de coups pour lui faire avouer qu'il est juif. Hein, vous voyez que, bon, ben, ce n'est pas le genre de choses que doit faire la justice. La justice, si elle n'a pas de preuves, elle ne peut pas poursuivre et en tout cas pas condamner ensuite. On ne voit pas dans la salle, hein, alors manifestez-vous.
Est-ce que vous pourriez peut-être nous parler un petit peu du rôle de Serge Klarsfeld dans le procès Barbie, son arrestation et sa recherche?
Klarsfeld est avocat, mais il est surtout historien du judaïsme. Quand son père a été arrêté à Nice pendant la guerre, lui il était dans le placard et il a échappé comme ça à l'arrestation. Son père est mort et avec son épouse, allemande d'ailleurs, hein, ils ont mené tous les deux une très grande action pour retrouver et déférer à la justice des criminels auteurs d'actions contre les juifs. Et notamment, lorsqu'il a pu déterminer que Barbie était en Bolivie, son épouse et une mère d'enfants d'Isieux sont allées là-bas et se sont attachées sur un banc pour attirer l'attention des autorités boliviennes et du monde entier sur ce qui s'était passé. Donc, au départ du procès, le procès doit beaucoup, beaucoup, beaucoup à Serge Klarsfeld. Il a été là continuellement, et sa plaidoirie, il a plaidé en premier, sa plaidoirie c'était pour parler de chacun des enfants des yeux, pour personnaliser les enfants des yeux. La lutte contre le crime contre l'humanité commis contre les juifs doit beaucoup en France à Klarsfeld, incontestablement. Madame, devant.
En ce qui concerne Touvier et Papon, on ne peut pas imaginer de poursuivre les gens qui les ont protégés.
peux pas dire qu'il y ait... Je crois pas que... Enfin, la question s'est pas posée. Hein. La question s'est pas posée. Mais il est certain que les couvents intégristes qui ont caché Touvier... Papon, c'est différent. Papon était ministre. Hein. Il avait une vie officielle. Il est... Et puis un jour, il y a un avocat bordelais qui a découvert que... dans les papiers que c'est lui qui avait signé les... Bon, ben, il était à ce moment-là titulaire de la Légion d'honneur, ancien ministre, il s'est jamais caché, Papon, hein. Par contre Touvier, lui, c'est dès qu'il a vu qu'il était en danger, il a été hébergé sans arrêt avec son épouse et avec ses deux enfants, ce qui est aussi un drame, c'est que il avait deux enfants âgés et qu'il a privé complètement
de parler plus fort,
de parler complètement de des enfants qui ont perdu toute une vie, hein, pendant depuis 44, depuis la fin de la guerre jusqu'à son arrestation des dizaines d'années plus tard. Mais bon, il se présentait, lui, l'ancien proxénète, l'ancien souteneur, il se présentait comme un catholique très pratiquant, et c'est au nom de la charité qu'il était hébergé.
Parlez bien après, en face du balcon, ils entendent mal.
D'autres questions? Là-bas dans le fond. Je...
Moi j'ai une question, s'il vous plaît. Est-ce que le crime contre l'humanité peut être appliqué à une seule personne? Enfin, est-ce que quand on réduit à l'esclavage une personne, qu'on lui inflige des sévices corporels comme le viol, des trucs comme ça, est-ce que ça peut rentrer dans le cadre d'un crime contre l'humanité?
Non, c'est un crime de droit commun. Le crime contre l'humanité suppose une doctrine d'État, hein, et une action de groupe. Action de groupe qui peut être celle du gouvernement officiel, mais qui peut être une action d'un groupe déterminé qui veut prendre le pouvoir, etc. Hein. Le crime contre l'humanité est collectif. Hein. Et dans Mein Kampf, Hitler écrivait, il a cité une fois dans Mein Kampf le mot humanité. Et il dit exactement, quand l'intérêt de l'Allemagne est en jeu, aucune considération de religion, de politique, d'humanité ne doit être prise en compte. Voilà, lui aussi parlait d'humanité, mais dans quel sens?
Bonsoir. Alors moi, j'aurais aimé connaître vos sentiments au moment où Klaus Barbie a nié en français la rafle des yeux.
Écoutez, Klaus Barbie a nié. D'abord, il s'est pas beaucoup exprimé, hein, puisque il est parti du procès très rapidement. Mais j'avais demandé au tribunal de le faire revenir le dernier jour après la plaidoirie des avocats. Parce que c'est un droit fondamental que je voulais qu'il exerce, qui est d'avoir la parole le dernier. Et on a eu la surprise, enfin je crois pas que ce soit vraiment une surprise, de voir que cet homme, qui jusque-là n'avait parlé qu'en allemand, faire une déclaration en français, dans laquelle il disait expressément, vous savez, c'était une période de guerre très dure, et j'ai fait une guerre très dure, mais... La lutte contre les Juifs, jamais je ne m'en suis occupé. Or, nous avions les preuves écrites de sa main, nous avions des témoignages que c'était pas vrai. Il est certain qu'il voulait se présenter comme un soldat et non pas comme un bourreau. Nous avions des preuves contraires. Alors.
Je reviens sur la question de mon camarade précédent. Est-ce que le terrorisme peut être considéré comme un crime contre l'humanité?
Ah, Là, c'est une grave question, parce que la définition n'est pas facile à trouver. Je vous rappelle que les résistants étaient appelés terroristes, et que dans des pays qui veulent retrouver, qui sont sous une domination étrangère, et qui veulent retrouver leur pays, les adversaires les appellent terroristes. Et il y a donc deux choses pour un juriste de définir le terroriste. Il y a celui qui commet des actes de terrorisme, comme on peut en voir, mais d'un autre côté, il y a des pensées aux résistants. Hein, ils ont été appelés terroristes à longueur de journaux, alors que c'était jamais que des hommes qui luttaient pour leur patrie et qui luttant pour leur patrie, étaient amenés à commettre des actes comme des sabotages de voies ferrées, des attaques contre des intérêts allemands, contre des Allemands. Mais c'était une lutte. De Gaulle était considéré comme un terroriste, hein, chef des terroristes. Donc, juridiquement, dans les conventions internationales, trouver une définition du terrorisme, je crois pas qu'on en soit encore là.
Bonjour. Depuis le début, vous nous parlez de ces événements de manière très objective. Normal, vous êtes un représentant de la justice. Mais vous, en tant qu'homme, vous retenez quoi du procès Barbie?
Ben, non. Écoutez, en tant qu'homme, je vous l'ai dit, moi je retiens les auditions des victimes. Je dois dire que dans certaines dépositions, y compris dans les yeux de Vergès, il y avait des yeux mouillés de pleurs. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important, que des hommes, et surtout des femmes, les femmes ont été vraiment extraordinaires, surtout quand elles n'avaient jamais parlé. Quand elles n'avaient jamais parlé avant, elles étaient extraordinaires. Ça sortait, même si avant, et bien évidemment, elles avaient préparé ce qu'elles voulaient dire, mais parler devant 700 personnes de ce qu'on a souffert, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, il y a ça. Et puis, moi, je suis très ému quand je songe à cette femme qui est venue me dire « Je vais enfin pouvoir dormir. » C'est là qu'on voit ce qu'il y a. Et puis, ce que je retiens aussi, c'est que ça fait avancer et beaucoup la vision que l'on avait en France de ce qui s'était passé sous l'occupation. On était 50 ans, plus de 40 ans après les faits, on vivait dans notre monde, et tout d'un coup, tout ça, ça ressurgit, et ça permet de remettre des choses au point, de voir ce qu'a été une page de notre histoire, une page dramatique. Et il y a eu, dans les journaux de l'époque, chaque journal avait au moins une page par jour consacrée au procès Barbie, au témoignage, et il faisait parler des résistants, des juifs qui n'étaient même pas témoins dans le procès Barbie, mais qui avaient vécu et qui venaient raconter. Et ça, je crois que ça a été très important. C'est un procès qui a eu un retentissement aux États-Unis et en Grande-Bretagne aussi, et en Allemagne. Il y avait beaucoup de journalistes étrangers qui sont restés longtemps. La Grande-Bretagne a fait un film dans les deux mois qui ont suivi. Ils ont fait un film sur le procès Barbie. Celui qui était le procureur général m'a d'ailleurs dit que c'est la première fois qu'on me choisit comme comédien à cause de mes cheveux blancs.
J'aurais voulu savoir si vous pouviez nous faire part de témoignages qui vous ont touché ou marqué.
Écoutez, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller à Lyon au CHRD, le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation, où il y a un extrait de témoignage du procès Barbie.
Beaucoup y sont allés. Hein,
oui, oui, beaucoup. Beaucoup. Et là, vous savez, des dizaines d'années plus tard, quand on réentend ce qui a été dit par Madame Geneviève de Gaulle, dont je rappelle que après son témoignage, elle a pris un malaise et elle a dû être hospitalisée, ce qu'ont dit d'autres femmes, quoi. Plus les femmes que les hommes, hein, c'est... Bon, il y a eu des hommes, bon, ben, il y a eu le témoignage d'Elie Wiesel, bien sûr, mais le témoignage d'Elie Wiesel, donc je rappelle qu'en Europe de l'Est, il a été déporté, je crois qu'il avait 14-15 ans peut-être, hein, il a été déporté, il n'a jamais connu à l'époque la France et Barbie, mais il a voulu faire un témoignage à la demande d'une association juive, mais c'est un témoignage d'écrivain, de philosophe, d'homme qui réfléchit et qui tire les leçons des événements. Les autres témoignages, ça sortait de soi, hein, ça sortait de soi et on l'oublie pas. Hein. Je crois que tous ceux qui ont assisté à ce procès, et notamment beaucoup de lycéens et de collégiens sont venus, hein, non seulement de Lyon, mais même du nord de la France, du sud-ouest, il y a une classe de Brive, je crois, qui a travaillé un an sur le procès Barbie, et dont des membres de ce lycée sont venus au procès. Donc ça a été, je crois, un moment où l'histoire de France s'est un peu réveillée, qu'on a vu les choses différemment.
Bonjour, ce procès a été filmé. Comment avez-vous vécu la présence des caméras dans la salle?
Ça n'avait pas d'importance. Il y avait trois sortes de caméras. C'était FR3 Lyon qui avait été choisi. Il y avait une derrière la cour et une devant pour pouvoir fixer dans tous les sens les témoins, ceux qui parlaient. Puis il y avait une caméra dans le fond de la salle en permanence qui ne bougeait pas pour prendre l'ensemble, quoi, une vision d'ensemble. Je crois pouvoir dire, d'abord on ne les voyait pas, les caméras. Je crois pouvoir dire que ça n'a influencé aucune décision. Alors bien sûr, il y avait des caméras à la sortie ou à l'entrée qui interrogeaient les témoins, mais ça c'est classique, c'est différent. Mais dans la salle d'audience, je ne crois pas personnellement. Enfin, bon, c'était oublié ça.
Puis-je vous poser une petite question, peut-être un peu étrange. Est-ce que la notion de crime contre l'humanité est toujours liée à des faits de guerre?
Non. Le crime contre l'humanité peut être commis en civil, enfin dans une période civile. Ça n'a rien à voir... forcément avec la guerre. La guerre, bien sûr, donne des occasions de commettre des crimes contre l'humanité, mais si vous imaginez... bien sûr, il y a des crimes contre l'humanité dans les guerres civiles, que c'est notamment en Amérique du Sud, mais tous les textes disent bien que ça peut être commis en période civile, c'est-à-dire que si demain un régime c'est le régime des Khmer Rouges, hein, c'est le régime des Khmer Rouges, leurs victimes ne se battaient pas contre eux. Il n'y avait pas de guerre civile, enfin, pas. C'est des gens qu'ils voulaient éliminer. Et le crime contre l'humanité est caractérisé dans ce cas-là.
Je voulais savoir comment ça se passe quand on veut juger un chef d'État encore en exercice.
Écoutez, Milosevic, Milosevic n'était plus en exercice. Le problème, c'est, on se pose la question actuellement pour le Soudan. C'est le chef d'État en exercice que le procureur voudrait voir déférer devant la juridiction pénale internationale. Mais si vous écoutez bien les informations, vous aurez retenu que dans le crime contre l'humanité, le Conseil de sécurité peut obliger la Cour à arrêter toute poursuite pendant un an renouvelable. Et si vous avez écouté les informations, vous savez que la France et son président disent au président du Soudan qu'ils demanderont aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, d'arrêter les poursuites contre le président du Soudan si celui-ci remplit certaines conditions. Ce à quoi les Américains, qui sont contre la Cour pénale, ont déjà fait connaître qu'ils s'opposeraient à la demande de la France.
Oui, j'ai une question sur vous n'avez pas parlé du procès de Eichmann à Jérusalem en 1961. Est-ce qu'il marque une évolution, enfin, dans le crime contre l'humanité? Et c'est une deuxième question qui peut être liée aussi. Pourquoi est-ce que Barbie a été jugé à Lyon? Est-ce que ça ne pourrait pas entacher, enfin, qu'il soit jugé sur le lieu de ses crimes, un peu comme Eichmann à Jérusalem, entacher un petit peu de partialité le jugement?
Écoutez, pour ce qui est de la deuxième question, aucun des jurés n'était né au moment où le crime contre Barbie sévissait à Lyon. Et rien ne permet de penser qu'ils étaient partisans et qu'ils ont absolument rien. Quant au procès des chemins à Jérusalem, tel qu'on le lit notamment chez Anna Arendt, je crois qu'on peut en tirer deux leçons. La première, c'est que Eichmann a toujours dit qu'il était un fonctionnaire, qu'il exécutait des ordres, que c'était pas à sa propre initiative, alors que le nombre de millions de ses victimes était connu. Mais c'était un fonctionnaire dans un régime philosophique dont je vous ai parlé. Et la deuxième chose, c'est, contrairement à ce que voulait le procureur, le président a dit, nous ne sommes pas là pour juger un régime, mais pour juger un homme, et c'est ça toute l'histoire, et moi je trouve que c'était une bonne façon de voir les choses. Mais je crois que...
Non. Voilà,
nous allons conclure simplement par quelques mots. Je vous ai tous observé pendant le discours du procureur Truch, et j'ai vu à quel point vous étiez touchés, combien cela vous intéressait au plus profond de vous-même. C'est pour ça que je me permets de parler en votre nom pour remercier le président Truch de son intervention, de tout ce qu'il nous a dit et tout ce qu'il nous a appris surtout. Ce sont des notions toutes nouvelles. Grâce à lui, c'est une ouverture dans nos vies, dans toutes nos vies. Merci encore.